I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own deck, sometimes the ace, sometimes the deuces. It's one life, there's no return and no deposit. One life, it's time to open up your closet. Life's not worth a damn till you can shout out, I am what I am. Da da da, da da da, da 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 da.
C'est quand la première fois que vous l'aviez chantée, cette chanson, Mark Tompkins?
C'est dans les années 80. Je ne sais pas exactement la date qu'elle a fait. En fait, à l'origine, c'était dans un, dans The Torch Song Trilogy, une pièce à New York. Et elle l'a pris, elle l'a rendue célèbre.
Donc la première fois, vous aviez quel âge?
The Torch Song. Bah, fin des années 80, au début des 90. Donc ça veut dire... Montreux. J'ai 54, 64, 74, 84, 30 et quelques. C'était un tube disco.
Je vous ai demandé de faire la liste des mystères du corps. Alors pendant la chanson, Fiaménard a commencé. C'était pas facile de trouver des mots.
Non, mais les mots, c'est impossible parce que isoler un mot. C'est trop réducteur en fait. Donc j'ai été obligé de choisir.
Alors ça commence par quoi là, votre liste?
Orifice. Et je me pose la question, pourquoi tant d'orifices? Et ma deuxième, c'est quand même les fluides, et donc encore liés aux orifices, hein, mais la séparation des fluides, c'est quand même incroyable ça. Ça rentre dedans, ça se sépare, ça mélange, ça choisit. Et mon troisième, c'est quand même le silence. Le silence extérieur du corps, là, on est là, comme ça, on est à toutes les deux, et nos corps à l'intérieur font un bruit monstrueux, mais par contre, ici, si on se tait, on n'entend rien. Je trouve ça mystérieux. Et le dernier, c'est le sang. Dans le sens où, cette question du sang, entre sang intérieur, sang qui va disparaître, donc le sang menstruel, et la valeur du sang, en fait. Donc, dans sa question propre dans la société, la valeur du sang.
Mark Tompkins, votre liste des mystères du corps commence par...
Pourquoi les ongles et les cheveux poussent? Je trouve ça très, très mystérieux. Parce que ça pousse très vite, en fait. Bon, pas pour tout le monde, mais plus ou moins. Et ça, on peut presque les sentir pousser, des fois. Voilà. Et puis l'autre, c'est les étapes du vieillissement, mais dès la naissance. Pas le vieillissement des vieux, mais les bébés, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les seniors, comme on dit, puis les gens très vieilles. Toutes ces choses qui... avant, j'y pensais pas trop parce que j'étais plus jeune. Mais à mon âge, j'ai 64 ans. Et je sens que je suis entré dans une autre étape. Et donc, je m'intéresse de comment... Quel est le changement qui fait qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Et il y a des choses que je peux faire que je ne pouvais pas faire avant.
Qu'est-ce que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire avant?
Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux rester très concentré très longtemps. J'ai pas besoin de bouger tout le temps pour me concentrer. Ça, c'en est un. Je me contente aussi de beaucoup moins qu'avant. Je voulais plus, toujours plus ceci, plus cela. Et maintenant, je peux passer une journée avec presque rien et être super content.
Fiaménard, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire avant?
J'ai l'impression que je dois être dans la pente un peu comme Marc. Je m'aperçois que je peux me contenter de moins, ou d'un seul coup, je m'aperçois que je commence à apprécier vraiment le temps. Et donc de me dire, tiens, ce temps-là, je vais vraiment le prendre. Ouais, ça oui.
Vous alliez un jour de Mistral, vous veniez de Sorgue en bicyclette, vous serez obligé de marcher, vous ne pourrez pas monter sur la bicyclette. Et puis alors ici, ça fait des rafales, vous savez, des rafales de vent. Ça ralentit, puis ça ressouffle. Mais nous, qu'on a couché un jour de 14 juillet à la cime du Ventoux, alors là-haut, le matin, il nous a fallu mettre les imperméables, nous attacher avec nos serviettes sur la tête et tout, il y avait la glace.
Stendhal disait, ce vent terrible agace les nerfs.
Le vent dominant est nettement le Mistral, qui souffle quand même une grande période de l'année. On peut dire qu'il est bénéfique parce qu'il sèche le terrain, il empêche les brouillards, il empêche quand même très souvent la pourriture. Et il a des vertus assainissantes, exactement.
Il est 23h et le corps serait le seul lieu qu'on ne quitte jamais. Le corps, c'est une chose qui a peu évolué depuis un moment. On a le même que ceux qui nous ont précédés, ou à peu près. C'est notre tour en ce moment de l'habiter et on ne quitte pas son corps dans la vie, ça c'est vrai, mais ce n'est pas forcément qu'un lieu imposé. À un moment, on peut le quitter pour le choisir, y réinjecter de la vie, quel que soit l'âge qu'il a. La pièce de Mark Tompkins s'appelle « Staying Alive ». On a tous l'air dans la tête à juste prononcer ces mots, staying alive, le morceau des Bee Gees remonte sans cesse à la surface. Alors que pourtant, le grand corps nu de Mark Tompkins nous fixe et nous parle de la mort, de la maladie, de corps disparu, d'absence. Mais alors, Gloria Gaynor et les Beatles reviennent aussi. Le corps est rattrapé par tout ce qu'il a fait danser, par tout ce qu'il a aimé, c'est un lieu à plusieurs entrées. Dans Staying Alive, il y a une file d'attente, comme un passage d'aéroport, une douane. On est entre deux mondes, on attend, sûr de rien. À la fin de sa pièce, Les Os Noirs, Fia Ménard monte sur scène pour dire « Maintenant, on dédramatise, on va au bar, on est vivant. On vient d'assister à trois passages à l'acte qu'elle met en image, dans le vent, les cendres, des corps qui se laissent partir, engloutir, des êtres qui quittent leur corps. » Elle cite le poème de Césarée Pavèze, « La mort viendra et elle aura tes yeux ». Et elle rêve qu'on ne soit pas sûr d'avoir entendu la mort ou l'amour, que ça se confonde. Alors on dédramatise parce qu'on est entre les deux et que ce n'est pas si opposé que ça, qu'on peut gagner un peu d'éternité en mêlant l'amour et la mort, et en faisant remonter quelques airs à la surface, le corps est rattrapé par tout ce qu'il a fait danser.
Je danserai, chanterai, jouerai toute ma vie. Je suis né seulement pour cela. Vivre, c'est danser. J'aimerais mourir à bout de souffle, épuisé, à la fin d'une danse ou d'un refrain. Josephine Baker.
Il y aura donc Mark Tompkins. Pour ses hommages au CND Centre National de la Danse à Pantin, les 13 et 14 avril prochains, et un des hommages, c'est donc Josephine Baker. Il y a présenté son dernier solo, Staying Alive, le mois dernier. Il y aura Fia Ménard, sa nouvelle pièce s'appelle Les Os Noirs, c'est en ce moment au Théâtre du Montfort à Paris, avec le Théâtre de la Ville hors les murs, c'est jusqu'au 14 avril. À la musique, il y aura Raphaël Lanader, elle est elle en majuscule. Son nouvel album s'appelle Chanson, elle sera en concert le 20 avril au Festival Mythos à Rennes et le 27 avril au Printemps de Bourges. C'est une vie d'artiste sur France Culture, ça commence avec nos corps, même corps que ceux d'avant.
Souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense à ce corps qui est le même que les hommes qui ont construit les pyramides. Le corps est d'une modernité en même temps et d'une telle antiquité. Je veux dire, c'est un héritage fabuleux quand même. Tout ce que le corps de l'homme a pu faire, tout ce que les hommes ont fait, c'est la même chose. On a tout. Hein? Et moi, ça me fascine. En plus, c'est tellement momentané, quoi. C'est vraiment comme une virgule, quoi. D'accord, hein, sur le temps. C'est rien. Et j'en ai profondément conscience et ça me rend joyeux. Parce que j'ai pas le droit de, pour une fois que j'y suis, vous voyez, de tout gâcher.
C'est la voix du danseur Jean Babilet. Mark Tompkins, est-ce que c'est vrai qu'à l'origine de ce solo Staying Alive, il y avait ce constat que vous étiez rangé dans la catégorie des vieux danseurs?
Oui, entre autres, mais c'est très vaste les raisons que je voulais faire ce solo. Entre autres, il y avait, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'on me met chez les vieux. Et ça veut dire on est gentil avec eux, ce que je déteste, parce que j'ai pas besoin d'être gentil et les autres non plus. Mais après, il y avait en cours de route, ça a beaucoup changé, parce que peut-être que j'avais envie de faire une attaque un peu plus virulente vis-à-vis de milieu de la danse, et au fur et à mesure, ça s'est écarté. Et je commençais à écrire des textes, et des textes étaient pratiquement que des textes sur ma famille. Ma mère, mon père, mon frère et ma sœur. Et puis, tout ce qui n'était pas, finalement, ils ont été lâchés. Il y en avait d'autres, mais on les a dit d'or, finalement. Et on a resserré tout ça autour de cette structure de relation mère-enfant. Et de mon propre enfance, c'est devenu de plus en plus autobiographique. Et puis, mon metteur en scène, Franz Postra, il m'a poussé d'y aller. Donc, j'ai écrit sur des choses comme le sida, sur le VIH, sur le fait que je sois aussi bipolaire, des choses qu'en général, on n'a pas trop envie de partager avec les étrangers. Et en fait, ça a créé une espèce de solo avec beaucoup de fantômes. Et je pense aussi, mais ça c'est pour les autres à dire, ouvrir une espèce d'intimité que je partageais avec les autres et qu'ils avaient tous leur mère qui est mort, leur père qui est mort, leur frère ou leur sœur. Donc il y avait beaucoup d'empathie. Et même si les choses étaient assez sérieuses, c'est resté. Et ça, c'était un vrai travail dans une espèce de légèreté. Il y avait des choses qui faisaient rire qui n'étaient pas drôles du tout, en fait. Et comme la réaction de mon père quand j'ai annoncé que j'étais gay. Il m'a dit, mais une des choses pires que quelqu'un m'a dit dans la vie, qu'il y a des gens normaux et des gens pas normaux, et que j'ai fait partie des pas normaux. Par exemple.
Ça, c'est une des choses que vous rejouez dans le solo.
Oui.
Et c'était évident que ce serait un solo, parce que ça faisait plusieurs années que, que vous ne l'aviez pas fait. Et là, vous êtes en effet seul face au public.
J'avais pas fait de solo depuis 10 ans. J'avais fait que des pièces de groupe. Et là, j'ai senti que le sujet s'y prêtait vraiment à faire un truc face à face avec les gens. C'est pour ça que le spectacle est en trifrontal, que les gens sont très très près de moi et que il y a pratiquement pas d'effet de lumière. Il y a des chansons que je chante a cappella la plupart du temps. Donc vous devez vraiment faire le plus vulnérable en fait. Pour partager ça et cette question de vie et de mort, parce que c'est pas que la mort, c'est pas que le vieillissement. Les gens disaient, oh là là, c'est ton dernier spectacle. Je dis, non, c'est pas mon dernier spectacle, mais c'est celui que je fais actuellement.
Il y a quelque chose d'assez fort, c'est l'entrée, parce que vous entrez avec une grosse valise, et puis il y a comme la file d'attente qu'il y a dans les aéroports.
À l'aéroport, ouais.
C'est comme si le contrôle était devant nous, vous arrivez petit à petit, vous traversez la file, et puis vous délestez de quelques objets, un camion de pompiers, un petit chien, un jouet qui aboie, des bottes, comme si vous vous délestiez de quelques moment du passé ou de l'enfance, et vous arrivez à un endroit comme si c'était un endroit entre deux, ou un endroit aussi de contrôle, parce que c'est l'endroit où on se fait contrôler à l'aéroport, où on n'est pas trop sûr, où il y a toujours un risque de... on sait pas, même quand on n'a rien à se reprocher, c'est des endroits où on n'est pas sûr, il y a une incertitude sur est-ce qu'on va passer ou pas. C'est quoi cet endroit
Nous, on appelait ça la porte du ciel. Tu sais, comment il s'appelle, le Saint-Pierre, qui est pour dire toi oui, toi non, toi, je ne sais pas, peut-être un moment en enfer. Et, donc, c'est qu'il fallait que je déleste de tout le passé pour arriver vraiment tout nu à cet endroit-là, de passage, pour passer de l'autre côté et commencer à raconter mes histoires sur moi-même et sur ma mère ou d'autres personnes.
Fia Ménard, on en parlera tout à l'heure, c'est pas le même lieu, mais c'est quand même un endroit entre deux mondes que vous explorez dans Les Os Noirs. Un passage et un entre-deux.
Oui, un passage finalement qui revient aussi à cette question que je pense tout être se pose. C'est finalement... est-ce qu'à un moment on peut décider de dire stop et de s'arrêter? Alors, c'est vrai que Les Os Noirs, on peut le voir sous cette forme-là. Après, je suis, peut-être que c'est là où je m'aperçois que je suis de plus en plus à me dire que c'est un conte. Et comme tous les contes, on a besoin de ces contes-là pour questionner finalement notre rapport, en effet, à cette question de la mort choisie. Puisque finalement, Les Os Noirs, on voit bien quoi? Un être humain, une femme, en l'occurrence, qui ne résiste pas à l'appel de la mort et qui en fait finalement un acte assez cérémonial à chaque fois. Et puis aussi une étape particulière, puisqu'il y a aussi cet accompagnement à la mort, alors qu'il y a un peu une métaphore, voilà, qui est une sorte de parabole, puisque est-ce qu'elle accompagne son propre corps, est-ce qu'elle... mais c'est aussi là où finalement j'avais envie de dire que, et cette phrase de Pavès pour moi est importante, c'est que l'acte d'accompagner quelqu'un à la mort est un des actes les plus forts d'amour. Parce qu'on sait que finalement, celui qui reste portera finalement encore la trace, alors que l'autre, on ne sait pas bien ce qui va se passer. Et c'est aussi cet inconnu-là donc, qui est si sans arrêt motrice finalement de notre imaginaire. On a envie que ce soit pas fini, alors on essaie d'imaginer ce que c'est.
Et nous, en tant que spectateurs, on est dans la position de celui qui reste.
On est en permanence dans celui qui reste, ou celui qui finalement pourrait aussi être dans une forme d'empathie, puisque soit on en est toujours, parce que la question du suicide restera toujours quelque chose qu'on éludera en disant, voilà, soit on a eu une envie, peut-être que j'imagine que chaque être humain a eu un jour une envie de suicide. Je ne pense pas que ce soit particulier à quelques personnes. C'est plutôt la question d'accepter ou pas de continuer à vivre et la raison finalement qu'on se pose. Donc c'est vrai que je la mets en scène à cet endroit-là en disant finalement à chaque fois ce corps, cette personne, Chloé, que moi je nomme presque une marionnette, puisque finalement c'est une marionnette, hein, puisqu'on n'arrête pas de la relever, se laisse aller, emportée par les flots, mais en même temps rappelle aussi d'autres endroits, par exemple cette forêt, qui est une forêt quand même très phallique, où elle se pend. Donc qui pose aussi des questions, à quel endroit l'amour se loge et pourquoi d'un seul coup l'amour ne nous sauve pas de la mort. Et qu'est-ce qui fait que le passage peut être si facile finalement.
Mark Tompkins, dans Staying Alive, il n'est pas question de suicide mais de mort. Vous parlez de celle de votre mère et vous parlez de deuil beaucoup.
Oui.
Et de, bah vous êtes celui qui reste et qui se pose la question de la vie juste après, la vie pendant que la personne est en train de partir, la vie justement accompagnant celle qui est en train de partir. Pourquoi le deuil, c'était finalement un des fils rouges de ce solo qui s'appelle Staying Alive, entre parenthèses, à ma mère.
Bah dans cette période de ma vie, ça veut dire de 92 à 95, j'ai perdu 3 personnes, ma mère, mon amant et mon meilleur ami. Et ça, c'est la première fois vraiment que j'ai été bouleversé par le sentiment de que faire, comment faire, comment je peux vivre. Et je pense que c'est, enfin, pour moi c'était très important. Parce que j'ai dû, j'étais assez, j'étais très très déprimé, et il fallait que je remonte la pente et que je trouve les choses de la vie pour dire ben ça c'est fini, c'est plus possible. Donc il faut tourner la page, et tu ne verras plus jamais. Mais vous pouvez vous remplir avec les choses positives de cette relation, qui sont nombreux, parce que c'était mes amis et ma mère, mais que tu ne peux pas revenir en arrière. Et j'ai commencé à vivre ça plus profondément en moi. Tous les jours, je dis, si c'est pas aujourd'hui, tu as perdu quelque chose. Donc, il faut essayer, des fois c'est impossible, mais il faut essayer de remonter la pente et de dire bon ben voilà c'est ici et maintenant et voilà, je pense que c'est surtout ça.
Et l'ici et maintenant dans le spectacle, il arrive souvent à travers une chanson.
Ah oui, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi à ça.
En tout cas, dans cette idée de coller l'amour, la mort, la vie, la mort, oui. D'être sur ce fil là
oui,
souvent il y a des chansons a cappella, comme vous dites, qui arrivent, qui émergent, et qui, comme oui. Si ça sortait de votre corps.
Oui, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça comme ça, mais ça doit faire une sorte d'équilibre, d'autant plus que pas le début, pas avec les Bee Gees, et pas à la fin, la chanson de la fin, qui est pas ma chanson. Presque toutes les autres, sauf I Am What I Am et Angie, que je chante 10 secondes, sont des chansons que j'ai composées. Donc, et qui sont certaines adressées à certaines de ces personnes.
Parce qu'on parle beaucoup du corps, mais la voix, elle est très importante dans ce solo, Mark Tompkins.
Ah oui,
d'abord
oui, mais...
parce que vous parlez beaucoup et que vous racontez,
oui.
Et parce que vous chantez.
Parce que j'adore chanter. Mais ça, ça fait depuis longtemps. En hommage, il y a beaucoup de chants aussi. Il y a beaucoup moins de paroles, beaucoup moins de textes. Le texte, je pense, des fois je me dis, le texte est en train de remplacer une certaine physicalité que je ne peux plus fournir. Que je ne peux pas sauter en l'air, je peux pas... J'ai pas envie, par exemple, de danser comme si j'avais 20 ans. Et donc, si je peux pas aller dans le sol et remonter le sol d'un coup, gracieusement, ben je le fais plus. Je vais pas prétendre que je peux. Parce que ça, c'est une des choses que je trouve le plus horrible de, d'ailleurs, Merce Cunningham, à la fin de sa vie, c'était très très pénible, parce qu'il insistait, il était toujours sur scène, mais il arrivait presque plus à marcher, et puis il arrivait à un endroit, et puis il bougeait ses bras, parce que ça il pouvait faire, et puis il ressortait. Et moi je me suis dit, en fait, il est en train de dire, fuck you, moi je m'en fous. Vous dites que je suis trop vieux, que je n'ai pas droit à être sur un plateau. Moi, je vous dis, c'est toute ma vie, c'est ça, et je vais pas l'arrêter maintenant. Moi, je pense que beaucoup de gens, ils pensent un peu comme des fonctionnaires, et ils pensent que maintenant j'ai 65 ans, donc c'est fini. Le reste de ma vie, la nouvelle vie, ça va être retraité. Et il y a beaucoup de gens qui meurent assez vite, parce qu'il ne vit plus.
On va écouter la voix de Serge Koster.
Vous êtes passé du traumatisme de la mort à une certaine forme d'allégresse dans la vie, d'après votre roman.
C'est vrai, ça peut sembler paradoxal, et encore que, là aussi, il faut que la vie triomphe, je suppose. Mais il n'y a pas contradiction entre cette découverte terrible de la mort, réalité que je ne connaissais pas, réalité concrète, parce que c'est ça qui est terrible. La mort se dérobe et elle est concrète en même temps. Il faut essayer de concilier ces deux choses, si vous voulez. Il n'y a pas contradiction donc entre cette découverte de la mort et la découverte de la vie. Car finalement, j'ai dû, je suppose, me jeter dans la vie. Le livre en témoigne dans certaines scènes. Par exemple, il se trouve qu'au terme de ces 24 heures de randonnée sur la Côte d'Azur, il y a une chose qui doit tenir à la force de la vie qui s'est manifestée. C'était un désir sexuel qui peut être profondément choquant. Je le raconte tel quel ou presque avec un certain recul littéraire ou métaphorique, si vous voulez, mais c'était déjà une forme de la force de la vie par rapport à la mort. La vie ne veut pas céder comme cela, et je suppose que la libido, le désir sexuel... C'est cette manifestation de la vie qui ne veut pas s'incliner devant l'évidence du néant. Et puis, comme deuxième manière de faire triompher la vie, pour moi, en tout cas, il y a le langage. Il y avait le langage. D'abord, j'ai été pris, non pas d'un silence, d'un mutisme, mais d'une véritable logorée, c'est-à-dire de discours. Il fallait que je parle, que je dise des choses. Que j'invective la société qui a permis à un homme qui ne sait pas conduire de conduire, par exemple. Il fallait que je dise tout ce que je ressentais, il fallait que je dise que je ne me consolerais jamais. Et puis, il a fallu progressivement aussi, et c'était encore là le triomphe de la vie, que j'inscrive cette parole.
Mark Tompkins, est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre la découverte de la mort et la découverte de la vie ?
Bah, disons que je joue avec les deux.
Et les hommages que vous préparez au Centre National de la Danse cette semaine, oui. Vous les avez créés entre 1989 et 1998, et au départ ils étaient séparés, ces quatre hommages à Nijinsky, Valeska Gerth, Joséphine Baker, Harry Shepard.
Oui.
Là, vous les avez réunis, ça s'appelle
en
Hommage.
Quatre, oui.
Ça, c'est des corps qui vous. Des vies, des gestes qui vous habitent
Ça, c'est absolument pas des fantômes pour moi. Moi, j'ai fait pour chacun, sauf Harry, parce que c'était mon ami et mon mentor, j'ai fait des recherches très très poussées sur Joséphine, sur Nijinsky, parce que c'était des commandes, c'est pas moi qui a choisi de faire les solos. Et le Valeska et Harry, c'est moi qui a choisi parce que Harry c'était mon ami et Valeska c'était pour moi c'est un des plus grands artistes du XXe siècle. Donc, les raisons de faire des recherches. Mais après, en 98, quand je les ai réunis à Vienne, à Impostance, j'étais sidéré que comme si c'était planifié dès le départ. Et les gens aussi disaient, c'est tellement bien de voir les couleurs et les machins et les trucs, et les liens et tout ça. Et ça, c'est vrai. Et là, ça va être un peu curieux parce que je n'ai pas fait depuis 5 ans. Et donc, j'ai 5 ans de muscles de moins. où je vais trouver mes inspirations, dans quel mystère du corps je vais faire le flow, je ne sais pas encore, on verra le 13. Ça va le faire. Hein.
On a confiance. Raphaël Lanader, c'est elle. Elle retourne à l'initiale et à la majuscule pour son nouvel album qui s'appelle Chanson. On revient à l'essentiel, comme une chanson qui fait revivre un corps. Tout est organique, chaque morceau c'est comme un corps qui s'anime au son des bois qui l'accompagne. Pour chanter l'enfance passée, les saisons, elle attend que tout s'efface, elle attend le printemps. Elle propose de l'intemporel et un peu d'éternité. Elle chante la Meuse d'où elle vient, elle chante aussi les rues en deuil après la violence des attentats qui ont emporté des corps à Orlando ou à Paris. Et puis elle chante finalement, et tant pis si je nage à contre-courant, si je cours trop vite souvent. Le premier morceau s'appellera « Laissez passer ».
Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire sans tes yeux verts. J'hiberne. Je sais rien faire de mieux. J'attends que passe le vent, la neige. J'attends que tout s'efface. J'attends le printemps. J'attends que cesse le cortège des nuits sans fin. J'attends que marre le sortilège de ta peau. J'attends l'heure des bourgeons. Je veux qu'on change de décor, qu'on change. Parfois je dors. Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire sans terre. Les feuilles mortes, les fêtes, je veux que s'arrête la cohorte des foules. Je veux des jours longs sous le soleil, des cigarettes, des garçons roux, du houblon reflet vermeil, le fleuve qui coule, un point c'est tout. Je veux que plus rien ne soit pareil, plus rien qu'on soit demain. Moi, je ne sais rien faire.
Tout le monde connaît le Mistral, c'est le vent le plus connu, le vent de nord dans la vallée du Rhône et qui dévie ensuite vers l'Italie. l'intramontane, qui est un vent dans le sud de la France, mais il y a bien d'autres vents, et dans le monde, presque tous les vents ont des noms particuliers. On connaît le Chergui au Maroc, qui est un vent d'est chaud et sec, le Chinook en Californie, qui est chaud et sec aussi, l'Harmattan du Cap-Vert, qui est très sec et qui est un vent d'hiver, le Pampero, vent de Rio de la Plata, qui est un violent vent d'ouest, vous savez, ces vents avec grains, comme on en connaît sur les côtes de France, et le Sirocco, qui est le vent très sec de sud de la côte d'Afrique, et il y en a comme ça des dizaines et des dizaines. Chaque pays a trouvé un nom à ces vents locaux.
Vous connaissiez tous ces vents, Fiamena ?
Je crois que, comme il dit si bien, dans chaque pays, il y a un nom de vent et il y a toujours une sorte de mythe autour d'un vent. Donc non, je découvre finalement à chaque fois finalement qu'on entend en effet des définitions de vent. Parce que chaque pays, même voire chaque région, en fait, finalement, c'est ça qui est assez fou. C'est le vent ne se voit pas. On ne peut pas lui donner une frontière géographique, mais par contre, les êtres humains le reconnaissent. C'est quand même un truc de dingue, ça.
Et avec les os noirs, vous renouez avec vos pièces du vent, qui a un cycle particulier. Et vous aviez étudié un peu les changements d'humeur liés au changement climatique, notamment le vent dont vous parliez dans l'après-midi d'un faune, parce que faune, ça s'écrivait F-O-E-H-N, c'était un vent. Vous disiez que ce vent-là était plus propice aux accidents et même aux suicides.
Oui, alors après, voilà, si on se mettait à étudier chaque vent, je dirais que j'ai noté tout à l'heure, le Mistral a des vertus assainissantes. Alors, on imagine bien qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est que des vertus assainissantes. Mais en effet, chaque vent... finalement à son pendant, alors je pense notamment au vent par exemple le Santa Ana qui souffle dans les plaines mexicaines où on dit que c'est quand le vent Santa Ana souffle, il va y avoir des morts. Alors en même temps, dans des pays où il y a énormément de morts, et en gros si on voulait même regarder, finalement la mort est tellement présente en permanence que est-ce qu'on peut lui coller une étiquette, est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est la pluie, la chaleur, finalement c'est notre interprétation qui sans arrêt fait qu'on essaie de lier une relation un peu voilà, cosmique, je dirais, à des événements. Alors c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étudiais le faune, j'étais tombé sur cette étude réalisée par une université qui disait que finalement, en effet, quand le vent faune souffle, eh bien, il y a plus d'accidents, ou il y a plus de suicides, ou il y a plus de meurtres. Ce qui est plus pour moi la question de l'irrémédiable. Finalement, est-ce que le vent pousse à l'irrémédiable ? Et qu'est-ce que l'irrémédiable ? Alors, c'est des endroits, pour moi, qui sont des endroits sans arrêt de questionnement et qui, finalement, m'amènent à me dire l'être humain est si sensible. Est-ce que ça vaut le coup de le chercher ?
Est-ce que c'est le fun qui souffle au début des os noirs ? Ça commence par le premier passage à l'acte. Est une sorte d'engloutissement, c'est à la fois le vent et la vague, et un corps qui se laisse disparaître.
Oui, ça pourrait être le fun, je pense que c'est, de toute façon, c'est le souffle. Ce que je veux dire, c'est que quand je pense à cette scène-là, bien sûr, on a plein de références, parce que faire une vague sur scène qui emporte quelqu'un, on en a plein de références. Moi, bizarrement, finalement, c'est plutôt en me souvenant du miroir de Tarkovsky et de cette scène que je trouve absolument incroyable, de cet homme qui est venu avec sa valise à rencontrer cette femme, sont assis tous les deux sur cette rambarde qui a cédé, ils se sont retrouvés étalés dans l'herbe, dans l'humus comme ça, et on sent qu'il s'est passé quelque chose du désir. Et puis on voit cet homme qui repart, et on sait que cet homme est tombé amoureux et qu'il va se retourner pour regarder cette femme qui le regarde partir, mais finalement non, il ne se retourne pas, c'est le vent qui passe. Et c'est ce vent qui nous dit que finalement, voilà, ce regard est là, cette pensée est là. Alors quand je pense en effet à cette scène de vague, c'est ce corps qui se laisse aspirer sans réagir, et qui en montre sa beauté, C'est comme si finalement elle avait décidé de partir parce qu'elle a vu quelque chose de tellement beau, elle a connu quelque chose de tellement beau qu'elle n'a aucune tristesse à quitter cet endroit parce qu'elle l'emporte avec elle. Alors c'est en effet un peu peut-être bizarre pour le commun des mortels, mais je trouve cet endroit d'une romance incroyable.
Et vous parlez de tristesse qui n'est pas présente en effet dans le passage à l'acte, parce que peut-être il est irrémédiable, il est préparé comme vous le racontez. Il n'y a pas de peur non plus.
Non, parce que à chaque fois, finalement, l'acte qui est effectué est un acte décidé. Je ne me pose pas la question de la psychologie, de pourquoi la personne passe à l'acte. Je prends d'ailleurs son double sens, puisqu'on dit passage à l'acte et en même temps on est au théâtre, donc c'est un acte. À cet endroit-là, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de dire, voilà, c'est qu'est-ce que je ferais dans mon acte suicidaire si j'avais pleinement décidé, quel serait mon dernier geste, quelle serait ma dernière action, puisque ce serait pas désespéré. Ce que je veux dire, c'est qu'à cet endroit-là, je parle pas du désespoir, je parle de quelqu'un qui décide. Et ce qu'elle décide, c'est de s'offrir finalement un rituel. Et ce rituel est comme présage de dire, peut-être justement à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure ou de ce qu'on entendait, ne pas croire au néant. Alors ne pas croire au néant, c'est faire un rituel pour passer vers quelque chose qui est inconnu, mais c'est un peu comme si on se présentait. Alors elle se présente. Elle se présente au nuage en regardant par la fenêtre avant de se défenestrer. Elle caresse les arbres. Elle leur offre le corps. Elle leur fait une ovation. Elle montre les cimes. Comme si finalement, c'était un geste de dire « J'ai vu ce qu'il y avait de plus beau. Je l'emmène. »
Et elle, c'est pas vous ?
Non, c'est pas moi.
Parce que ça aurait pu être vous sur scène. Comme
ça aurait pu. Alors c'est vrai que c'est marrant, Marc qui disait que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de solo. Moi en fait, voilà, pendant des années j'ai fait des solos, notamment parce que cette question de la transformation de mon corps m'accompagnait et que j'avais finalement une obligation presque pour moi de dire ce qui se produit dans mon corps était tellement intense que je ne pouvais pas demander à d'autres d'interpréter l'intimité alors que je la questionnais moi-même.
C'était très lié au témoignage.
Qui était très lié au témoignage, alors que dans Les Os Noirs, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la rencontre avec Chloé Sanchez, l'interprète, et qui a été de dire, mais finalement, cette pièce, je l'ai vraiment écrite pour elle. Dans un dialogue qui a été finalement de se dire, qu'est-ce qui nous réunit à cet endroit-là, dans le dialogue, elle, marionnettiste, et la marionnette, finalement, c'est un objet mort. C'est un objet auquel on donne vie, c'est un objet qui va prêter des intentions, on va lui faire vivre quelque chose. Et j'avais très envie, finalement, moi je ne suis pas marionnettiste, donc de dire, voilà, si toi tu es la marionnette, qu'est-ce que c'est ? Et si les matières que je vais mettre en scène, qui sont du vent, qui sont des matières plastiques, du papier, finalement allaient t'animer, donc que tu prenais bien cette position, quelle serait ce geste. Alors on l'a articulé autour de la mort, mais ça aurait pu être autre chose. Je crois que notre dialogue s'est retrouvé à cet endroit-là, mais peut-être tout simplement lié par rapport au contexte de la marionnette. Après, je ne me vois pas interpréter cette pièce. Elle est mystérieuse pour moi. Je la regarde régulièrement avec frayeur et en même temps, j'y reconnais mon regard, mais c'est surtout un dialogue avec elle.
Et vous dites que c'est aussi déterrer quelques revenants, quelques histoires qui vous ont marqué.
Oui, parce que c'est marrant, quand on parlait de Martha Graham ou de Merce Cunningham. Moi, j'ai une très grande pensée pour Tadeusz Kantor, parce que finalement, je pense que... Je me sens vraiment de cette histoire-là ou de Joseph Beuys, des artistes qui finalement ont eu des actes artistiques mais aussi des actes très politiques dans la manière dont il, Cantor, c'était bien ça, on lui reprochait d'être en permanence sur scène, mais jusqu'au bout, de rappeler finalement c'est son œuvre, et il travaillait dedans et l'œuvre continue à bouger. Et pour moi, dans des éléments où je me sens comme ça, si proche, je passe mon temps à redéterrer des souvenirs et de découvrir que finalement je ne fais que continuer ce chemin immiscé par d'autres artistes. Donc en effet, ce texte d'Andrés Belos au début sur les oiseaux, qui est absolument magnifique.
C'est Jean Babilet tout à l'heure qui disait qu'on a le même corps que celui de ceux qui ont construit les pyramides, et on va réécouter sa voix.
C'est une sorte d'harmonie que je recherche, en fait que tout le monde recherche. On en a plus ou moins conscience. Moi, je suis un peu né pour ça, si vous voulez. À partir du moment où j'ai découvert mon corps, quand j'étais enfant, je n'ai cessé de le sculpter, de jouer avec, de m'imaginer des choses. Vous voyez, j'étais vraiment, je me tenais sur les mains à 6 ans. J'avais jamais pris de cours, de rien du tout, vous voyez. Simplement, j'ai toujours eu l'intérêt. Et en fait, c'est le lieu qu'on ne quitte jamais, hein, son corps. Et alors, il faut vraiment vivre avec le mieux possible. Et c'est très long quand on a mon âge. Mais c'est un plaisir, vraiment. Parce qu'il vous apprend tout le temps des choses. À quelque âge que ce soit, si on l'écoute et si on joue avec, il y a toujours l'équilibre qui se fait de façon différente. Mais c'est toujours intéressant.
Fiaménard, c'est pas tout à fait vrai, le corps c'est le lieu qu'on ne quitte jamais. Parce que vous lui avez offert une deuxième vie à votre corps.
Oui, alors puisqu'on est dans les aveux, à 47 ans, j'ai un corps de 47 ans, mais à peu près une physiologie d'une adolescente. Donc peut-être aussi la rage d'une adolescente d'ailleurs. Non, je crois pas que ce soit... On le quitte pas en fait, en effet, je suis d'accord avec Jean Babilet, c'est la permanence. Et c'est bien ça d'ailleurs le drame. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant que femme dans la société, je m'aperçois de la permanence de mon corps. C'est pour ça que finalement, je suis devenue une féministe guerrière. Parce que je ne peux pas échapper à la condition de mon corps. Ou en tout cas de la représentation sociale du corps dans une société patriarcale. Donc ça veut dire que voilà, la permanence, elle est bien là. Après, on s'offre, oui, ce que je veux dire, c'est que c'est le rêve. Je vous dis à tous, changer de sexe. Ce serait un peu une forme de provocation, mais peut-être que le monde serait un peu différent si on faisait ce parcours réellement d'éprouver le corps. Parce que je trouve qu'il a raison en disant on éprouve le corps à chaque raison. Et peut-être c'est ça le problème, c'est que la majorité de la société n'éprouve pas son corps. Parce qu'on le rend coupable, parce qu'on le met dans des interdits. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez quel mot, je mets le mot orifice, je mets le mot directement, parce que c'est sans arrêt ça. Parce que je veux dire, nos sociétés sont construites autour de... il faut se taire, il faut pas sentir, il faut... Et pourtant, on est gavé d'orifices. On est gavé de flux, c'est-à-dire on vit sur une planète qui n'est faite que de nos excréments, du pourrissement des autres corps, de choses comme ça. Mais cette possibilité d'un seul coup, bon, je ne l'ai pas choisi, finalement, je suis né dans un corps de garçon, alors à contrario de lui, en effet, j'ai fui mon corps pendant des années jusqu'à me le réapproprier, c'est-à-dire me réapproprier dans le sens où, me sentir en accord avec sa définition. Parce que c'est ça la question, c'est la définition du corps. Et dans cette définition-là, ce qui est pour moi important, c'est de rappeler sans arrêt qu'elle n'est que fluctuante. Ce n'est pas vrai qu'on soit comme ceci ou comme cela. La permanence n'existe pas. Le corps est un endroit d'instabilité. Et la définition d'identité est une instabilité permanente. C'est ce qui fait peur. C'est pour ça que le trouble, et presque le mot queer, fait peur. Parce que justement, il traite bien du fait que la réalité, c'est que nous sommes instables. Nous sommes en permanence instables. Et cette instabilité, elle... soit on passe notre temps à essayer de la contrôler, donc à la cadrer, et c'est ce que fait une belle société patriarcale, la morale, tout ça, ça nous la cadre. Et puis finalement, peut-être que nous autres artistes, on s'offre un peu cette... mais parce qu'on va nous coller le mot artiste, cette liberté. Mais je crois qu'en fait, nous sommes simplement des êtres humains qui reprennent possession de cette instabilité en lui trouvant des valeurs incroyables, c'est-à-dire d'une découverte quotidienne de possibilités, de nouvelles joies, de nouveaux plaisirs, pour justement ne pas attendre le moment où on nous dit « ça y est, t'as droit à la retraite, t'as droit de profiter ». C'est là où je cherche Jeanne Marc en disant « les artistes, il n'y a pas de retraite ». Un artiste, c'est quelqu'un qui passe son temps à finalement continuer à respirer et à se dire « tiens, il y a une odeur dans cette qui passe dans mes narines, il y a quelque chose dans cette sur mon palais ». Sous mes bras, sur ma peau, et ça me fait penser à ça, pas vous.
Et quand on passe d'un genre à un autre, on perd quoi et on gagne quoi? Ce que vous disiez dans l'espace public,
Je perds une part de liberté dans l'espace public, oui, ça c'est certain, parce que finalement on me rappelle en permanence que je ne suis plus propriétaire de l'espace, car je pense que c'est ça, c'est-à-dire que ce que l'on perd... Et c'est là le plus dramatique, c'est que ce n'est qu'un jeu de représentation. Le pouvoir n'est qu'un jeu de représentation et le pouvoir patriarcal n'est un jeu de représentation. Dans le sens où lorsque j'étais dans la peau d'un homme, j'étais exactement la même personne. Maintenant que je suis dans la peau d'une femme, on me rappelle que finalement, je n'ai plus les mêmes droits, mais je suis de la même personne. Donc ça veut dire qu'il y a bien erreur, quelque part, il y a falsification. C'est pour ça que je dis que le patriarcat est certainement une association de malfaiteurs. Mais plus ou moins consciente, voilà. Alors il faut travailler. Alors je suis un peu là, une mouche du coche qui passe
plutôt
son temps à...
Plutôt moins que plus.
Ouais, c'est ça, je pense. C'est bien ça le problème.
Sinon, qu'il faudrait... ça ira beaucoup plus vite.
Voilà. Mais du coup, cette forme, elle est aussi, à qui veut bien le vivre, une forme d'expérimentation, de comprendre le monde, bien plus large. Et de comprendre aussi un autre endroit. Peut-être je n'ai pas su trouver la fraternité, je trouve la sororité, ça c'est sûr. Alors chaque jour, je découvre aussi des nouvelles formes de dialogue qui sont nées aussi de comment l'éducation a forgé chaque genre. Alors c'est à cet endroit-là que c'est un endroit passionnant pour moi. C'est comme si finalement vous aviez une grille avec des trous et que par moment il y a des croisements. Et dans ces croisements, vous comprenez que il y a certaines cases qui sont vides. Et c'est celle-ci qu'il faut investir, où il faut renourrir. Donc je savoure ça. Mais en effet, je m'aperçois qu'immanquablement, je suis obligé de rappeler qu'il y a une très forte inégalité. Trop forte. Insupportable.
Et dans Saison sèche que vous présenterez à Avignon cet été, les femmes vont brûler la maison du patriarche.
Oh, elles vont plus que, elles vont pas brûler, hein, puisque j'avais donc dans un premier coup belle d'hier où j'avais demandé à 5 femmes de faire la dernière lessive, hein, de ranger l'humanité et de dire bon, allez, c'est la dernière fois où on fait la lessive. Là, j'ai demandé en effet à 7 femmes de détruire la maison du patriarche. Détruire, c'est bien plus, parce que c'est de dire à un moment, voilà, le problème de la parité. C'est que c'est remettre de la peinture sur du salpêtre. Quoi qu'il se passe, le salpêtre passe à travers la peinture. Détruire le mur, c'est dire il faut tout refonder. Il faut retravailler. Il faut... Alors, c'est en effet une question difficile. C'est que l'égalité, c'est un moment... Comment on va créer avec... juste cette action qui va faire que le pouvoir tombe. Parce qu'on ne rend jamais le pouvoir. Ce que je veux dire, les puissants ne rendront jamais le pouvoir. Ça n'existe pas. Le pouvoir, il ne peut être que récupéré. Mais le récupérer, ça veut donc dire un acte de violence. Alors, c'est vrai que quand je pense à une pièce comme Saison 16, j'ai tout de suite pensé au Maître Fou de Jean Rouch. En me disant, finalement, quand je regarde ce rituel des Aouka, à ce moment où il commence à danser, où il commence à créer, finalement, et à appeler les esprits des colons, et puis qu'au final, ça devient un acte un peu plus que rituel. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire qu'ils ont gagné une certaine partie. Peut-être qu'ils ont réussi à évacuer une certaine partie du colonialisme. Alors, je me dis, je me prête à rêver que Saison 16 soit un acte qui soit une des dernières batailles pour la chute du patriarcat. Ou en tout cas, de s'immiscer à un acte en disant peut-être que c'est par là qu'il faut y arriver.
Francesca Poloniato, je dirige la scène nationale du Merlan à Marseille et depuis un peu plus de 2 saisons, je développe un projet qui s'appelle Au fil de l'autre. C'est un projet artistique et culturel sur lequel j'ai été recrutée et dont l'axe essentiel porte sur la liaison entre l'art, la création et un territoire.
C'est l'heure de notre coup de fil à une scène nationale. Ce soir, ce n'est pas un spectacle dont on va parler, mais un colloque qui aura lieu au Théâtre du Merlan à Marseille, donc les 13 et 14 avril. Ça s'appelle Contexte, 2 jours de rencontres et de débats pour évoquer les liens entre art et territoire dans ce théâtre du nord de Marseille, adossé au centre commercial, qui réfléchit plus que jamais aux liens avec ceux qui habitent devant, derrière et à côté. Francesca Poloniato, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que ça veut dire le territoire au Théâtre du Merlan, le territoire qui vous entoure, auquel vous réfléchissez ?
C'est un territoire qui est quand même assez improbable, c'est-à-dire une scène nationale sur ce territoire qui est entourée, la scène nationale est entourée de grands immeubles, de bars. Beaucoup de personnes habitent autour. Il y a à peu près 260 000 habitants sur les quartiers nord et c'est un territoire qui est extrêmement riche de militantisme, de personnes qui se battent et en même temps c'est un territoire très pauvre.
Et pendant ces 2 jours au Merlan, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des rencontres avec les habitants et certains artistes qui sont présents comme Thierry Tionyang, le metteur en scène François Cervantes, le danseur Michael Philippot. Comment tout ça va s'articuler ?
Pour moi, Contexte, ça dit une préoccupation qui concerne aujourd'hui autant les artistes que les lieux. Il s'agit plus d'avancer à marche forcée avec l'action culturelle pour convaincre les habitants de venir dans des lieux, de voir des artistes qui sont en général souvent drapés dans leur tour d'ivoire. Et voilà. Et donc c'est pour ça que le vendredi après-midi, la première table ronde que l'on intitule « Vivre, rencontrer, investir », il y aura François Cervantes, comme vous l'avez dit, Thierry Tuenang, danseur chorégraphe. C'est Anne Quentin qui en fera la modération et qui animera cette table ronde. Et ce sera une table ronde avec des habitants. Et pour moi, c'est important de donner la parole aux habitants avec des artistes.
Merci beaucoup Francesca Poloniato. Contexte, c'est au Théâtre du Merlan à Marseille les 13 et 14 avril. The evil had spread like a fever ahead. It was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Will you do enough talk, my little hawk? Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die.